Oser la paix en temps de guerre, voici l'intervention d'Alfonso Zardi, délégué général de Pax Christi France, une intervention enregistrée à la cathédrale de Bayonne le 22 novembre 2023. Oser la paix en temps de guerre, Alfonso Zardi, délégué général de Pax Christi France.
Quand je m'adresse à un public comme le vôtre ou à quelques interlocuteurs moyennement ou haut placés, je dis que je suis le délégué général de Pax Christi. Souvent, la question, l'objection, c'est: Ah bon, ça existe toujours? Et souvent, venant d'un prélat, ça m'étonne parce que Pax Christi est un mouvement d'église, est un mouvement bien enraciné dans l'Église catholique de France. Et bien que son agissement, ses agissements et son action soient ouverts par définition à tous, puisque tous nous recherchons la paix, tous nous désirons la paix. Cette ignorance relative sur le fait que le mouvement existe toujours me surprend, mais elle me motive à dire: il faut donc que j'en parle, il faut donc que je suscite une curiosité pour ce que nous faisons, et il faut que je réaffirme, c'est presque un pléonasme, mais la nécessité, l'importance de vrai de travailler pour la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans ou 70 ans, quand le mouvement est née de l'intuition de Madame Marthe d'Hortel-Clodon, qui était prof d'allemand et qui, au cœur de la guerre, vers la fin 1944, a eu cette intuition de dire: il faut prier pour l'Allemagne. À l'époque, on fonctionnait un peu autrement, je dirais qu'aujourd'hui, elle avait lancé une croisade de prière pour la conversion de l'Allemagne, ce qui était traditionnel et courageux à la fois, traditionnel, croisade, la conversion de l'Allemagne. C'était une intuition, je crois, profonde, parce que si on veut faire la paix avec les Allemands, 1944, la France est encore occupée, si on veut faire la paix avec les Allemands, il faut une conversion des cœurs. Il faut qu'eux quittent les pensées, je dirais, mortifères qui les habitent, l'idéologie qui les a gagnés. Et il faut que nous sortions aussi de ce cadre qui voit l'ennemi, qui ne voit que l'adversaire à éliminer, repousser, exterminer, le cas échéant. Donc, prier pour la conversion me paraît toujours une intuition profonde qui a évolué au fil des ans, en ce sens que ce mouvement, approuvé par Monseigneur Théas, a essaimé en France, jusqu'à atteindre un certain niveau de visibilité et d'importance, je dirais, politique au sens large, qui ont fait que le mouvement s'est structuré en association, un mouvement qui a eu à sa tête, au début des années 50, l'archevêque de Paris, Monseigneur Feltin. Et ce fut ensuite le secrétaire particulier de Monseigneur Feltin, le père Delalande, qui devint le secrétaire général de ce mouvement en construction. Et il faut dire aussi que, né en France, le mouvement s'est aussitôt voulu international de par son action. Bien sûr, il était né en France et il fallait prier pour les Allemands, pour l'Allemagne. Donc, en soi, il était international dès l'origine, mais il est né en tant que mouvement catholique international pour la paix. Et ce n'est que de nombreuses années plus tard, au milieu des années 70, quand des Pax Christi nationaux ont vu le jour, en commençant par l'Allemagne d'ailleurs, mais également en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, et puis en dehors de l'Europe, aux États-Unis, en Extrême-Orient. Eh bien, à partir du moment où le mouvement s'est structuré en association nationale, que Pax Christi France est devenue techniquement la section française du mouvement international qui, lui, s'est donc installé, pour ainsi dire, à Bruxelles et agit comme une sorte de confédération, donc de mouvements et d'associations qui ont le même sceau, qui ont la même volonté, qui ont la même inspiration que Pax Christi France à ses origines. Et aujourd'hui, il existe, je dirais, une constellation de Pax Christi à travers le monde, dont une vingtaine, je dirais les plus importants. ont encore cette dénomination officielle. Beaucoup, pas tous, ont un évêque à leur tête, et puis des dizaines et des dizaines d'associations et mouvements chrétiens, oui, souvent catholiques, autrement chrétiens, parfois interconfessionnels, qui adhèrent aux finalités du mouvement. Et donc, quand on regarde un peu le tableau des adhérents, des membres de Pax Christi International, on atteint facilement la centaine de structures, voilà, plus ou moins articulées, plus ou moins riches et vaillantes, bien sûr, souvent, effectivement, en Afrique, en Amérique latine. Alors, en vous disant tout cela, je vous projette un peu dans le champ d'action du mouvement qui a toujours eu à cœur, depuis ses origines, de prier, c'était sa vocation première, réfléchir sur les questions de la paix, agir en portant de l'aide, en manifestant, en témoignant en faveur de la paix en France et dans le monde. Quand je dis prier, je pense effectivement à cette intuition d'origine qui était prier pour la conversion. Mais c'est aussi au cœur de notre raison d'être en tant que chrétien. Nous avons reçu la paix, qui est un don de Dieu, et à la messe, au moins trois fois. Et puis, à la fin, on dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Que la paix du Seigneur soit avec vous. La messe est finie, allez en paix. Voilà. C'est un engagement profond que d'autres religions partagent. D'ailleurs, nous n'avons pas cette exclusivité. D'ailleurs, on me rappelle souvent que la salutation habituelle de Jésus, en bon juif, était shalom. Quand il se présentait à son entourage, quand il recevait, même dans le cénacle, après sa résurrection, le premier mot, c'est shalom, que la paix soit avec vous. Donc, c'est une obligation, c'est une identité que nous portons et qui nous oblige, tout simplement, qui nous oblige à en être conscients et à faire la paix en quittant l'Église, dans notre environnement immédiat, dans notre environnement proche, la famille, le quartier, le lieu de travail, etc. Cet apostolat, en quelque sorte, ce témoignage que nous portons consciemment et inconsciemment dans toute notre vie, dans la vie de tous les jours. Et Pax Christi s'efforce de maintenir la prière au cœur de l'engagement pour la paix, en faisant différentes propositions, et dernièrement, en revenant sur un projet lancé il y a quelques années, à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, la messe pour la paix le 11e jour de chaque mois. Voilà, donc on évoque le 11 novembre 1918 et le 11e jour de chaque mois, nous proposons qu'une messe soit célébrée pour la paix. Nous avons relancé cette initiative il y a quelques mois auprès des évêques, auprès des paroisses de France, et nous commençons à récolter en quelque sorte les fruits, parce que les adhésions se multiplient. D'ailleurs, sur notre site, nous tenons à jour une carte de France dans laquelle apparaissent les lieux où cette messe est célébrée tous les mois. Le deuxième volet de notre action, c'est la réflexion, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans notre société, y détecter les éléments de difficultés, de perplexités, de frictions, voire de ruptures, et voir en quoi nous pouvons apporter une réponse, en quoi nous pouvons calmer, s'il le faut, apaiser des circonstances. Nous avons été confrontés, nous tous, dans la société française, ces dernières années, ces derniers mois, à des situations de tension, de crise, d'affrontement. On a même parlé à un certain moment, et pendant quelques jours, d'émeutes, voilà, fin juin, début juillet. Cela nous a tous bouleversés, surpris par sa violence, son caractère soudain, par le climat qui s'était créé d'opposition presque frontale entre deux fractions de notre société, l'une ne comprenant pas du tout l'autre, l'une s'en prenant à l'autre sous le geste d'une violence débridée que rien, en fait, ne justifie, et puis le saccage, etc. Quel est le malheur qui gît au fond de notre société. Et puis, dans tel quartier, dans telle ville, dans telle couche sociale, quel est le malaise, quelle est l'incompréhension qui règne entre nous, autour de ce qu'on pourrait appeler le pacte social, du vivre ensemble, pour que certains se sentent à tel point délaissés, indifférents ou hostiles au restant de la société, jusqu'à vouloir le piller, le saccager, le détruire. Voilà. Quel est, disons, le creux qu'il y a dans le cœur et dans la sensibilité de nous en tant que membres de ce corps social, membres de cette famille humaine, concitoyens que nous sommes, pour qu'il y ait de telles oppositions, de tels clivages. Pour nous, à Pax Christi, c'est une interrogation. Pour nous, constater que la paix ne règne pas, qu'elle est difficile à rétablir, constater que des oppositions de cette nature, aussi de courte durée, d'aussi courte durée soit-elle, mais violente et profonde, ça nous interpelle. Il faut faire quelque chose. Il faut remettre le mot fraternité non seulement sous le fronton de nos mairies, mais il faut le mettre au cœur de notre action, de nos politiques. Il existe une journée de la fraternité proclamée par les Nations Unies le 4 février. Et vous savez pourquoi c'est une journée de la fraternité le 4 février. Il y a à peu près 150 à 160 journées internationales de quelque chose proclamées par les Nations Unies. Donc ne soyons pas étonnés s'il y en a même une de la fraternité, et demain il y en aura peut-être une de la sororité, on verra. Mais pourquoi celle de la fraternité le 4 février? Parce que c'est l'anniversaire de la déclaration d'Abu Dhabi, la déclaration sur la fraternité signée par le pape et l'imam Al-Tayeb à Abu Dhabi. En tant que chef représentant de la religion catholique, des catholiques d'un côté et des musulmans de l'autre, bon, les sunnites globalement. Mais il y a eu un geste semblable aussi vis-à-vis des chiites en Irak. Eh bien, ces deux hauts dignitaires, ces deux chefs spirituels, ont adopté une déclaration qui place au centre de leur action et du dialogue entre les deux communautés religieuses, qui sont mondiales d'ailleurs, la fraternité. Nous sommes tous issus d'Abraham, dans nos convictions profondes, dans les témoignages que nous portons. Nous sommes donc unis par ce lien de fraternité qui doit nous amener à surmonter les différences, les difficultés, les oppositions parfaitement légitimes, inévitables, au nom justement de ce que nous avons en commun, d'être tous des hommes qui sont nés, issus de la volonté bienveillante de Dieu qui nous a créés. Et cette journée de la fraternité, pour nous, est un engagement à en parler et à susciter des actions, des actes ouverts, accessibles à tous. Nous envisageons d'ailleurs, en lien avec un groupement assez large d'associations et de mouvements, il y a une sorte de plateforme qui s'est constituée il y a quelques semaines et qui œuvre pour que le 4 février 2024 soit une journée particulièrement importante dans laquelle cette fraternité est célébrée et mise à l'honneur et devient geste fraternel, amical, souriant avec nos voisins, dans nos quartiers, dans nos associations et dans toute la mesure du possible, dans un esprit évidemment interreligieux, puisque à l'origine, il y avait justement ce texte, ce message du pape François et de l'imam Al-Tayeb. Et le troisième volet de notre action, c'est l'action, justement, c'est-à-dire en quoi consiste notre engagement pour la paix. Alors, vous savez, un mouvement, ben, c'est un mouvement. Vous marchez et vous avez des compagnons de route qui se joignent à vous, qui font un bout de chemin, puis il y en a un qui se fatigue, l'autre qui arrivait devant chez lui, le troisième qui est appelé au téléphone et doit nous quitter. Donc le groupe s'amenuise, et puis en continuant la marche, il y en a d'autres qui se rajoutent, etc. Donc, parce que ceci est un mouvement, techniquement, juridiquement, nous sommes une association, comme beaucoup d'autres, des milliers d'autres. Et comme je l'ai dit, nous avons même à notre tête un évêque. Mais en tant que mouvement, nous sommes présents là où de bonnes volontés se manifestent et là où un désir de témoigner, un désir d'agir se manifeste. Et c'est là que, historiquement, culturellement, Pax Christi a montré, je dirais, un peu Sompreville ou a apporté une contribution, principalement, mais pas exclusivement, au sein de l'Église catholique. Et là, j'ouvre une parenthèse plus personnelle pour vous parler de tout ça, puisque si j'ai accepté à un certain moment de devenir le délégué général du mouvement Pax Christi, c'est aussi en raison de mon histoire personnelle, personnelle, humaine et professionnelle. Je suis italien, je suis arrivé en France en 1979 avec mon épouse et j'ai posé nos valises, à l'époque, dans la ville de Strasbourg, où j'avais été appelé par mon désir de travailler à la construction européenne, figurez-vous. Vous savez que Strasbourg est le siège du Parlement européen. Vous savez peut-être que Strasbourg est aussi le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, dont on parle de temps en temps, quand il y a une affaire retentissante qui monte jusque-là. Vous ne savez peut-être pas qu'à l'origine, tant du Parlement européen que de la Cour des droits de l'homme, il y a une autre institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Je vois quelques têtes, quelques cheveux gris au fond de la salle, comme moi. Vous avez l'âge peut-être de vous souvenir que le Conseil de l'Europe a été créé en 1949. C'était la première des organisations européennes qui ont été voulues à ce moment-là, à l'issue d'un grand congrès de fédéralistes, etc., etc., dans le but, précisément, comme Pax Christi, de rapprocher la France et l'Allemagne, de créer un noyau de nations européennes libres, libres du fascisme, libres du nazisme, démocratiques, parce qu'elles se sont toutes dotées des constitutions démocratiques après la guerre, dans la mesure du possible, prospères, le plan Marshall, pour ceux qui s'en souviennent, et surtout, attaché à la promotion, à la défense des droits de l'homme, pour que les horreurs qui s'étaient produites sur le continent européen 5 ans plus tôt ne se produisent plus jamais. Et la grande nouveauté de ce Conseil de l'Europe était justement, non seulement l'identité, l'égalité de ses États membres, vainqueurs et vaincus, en 1949. L'Allemagne arriva quelques années plus tard, mais dès 1949, l'Italie faisait partie. Mon pays, vaincu dans la guerre, qui avait commis ces atrocités à lui, hélas. Eh bien, non seulement l'égalité de tous les membres, mais l'engagement solennel à protéger les droits humains inhérents à la personne humaine, dont on a fait le catalogue dans la Convention, avec le droit, mais qui est même une obligation pour les États, d'intervenir chaque fois qu'un autre État viole ses droits humains fondamentaux. La grande nouveauté du Conseil de l'Europe de l'époque était non seulement la proclamation des droits et le droit de chacun de se défendre, de dire on est en train de me priver d'un droit fondamental, à la liberté, à le droit d'expression, d'association, on me met en prison illégalement, on me torture, etc. Non seulement l'individu, la victime, doit pouvoir se défendre devant une institution, mais un État doit pouvoir dire tel autre État massacre pas forcément ses propres concitoyens, mais il massacre des étrangers, il massacre des gens de passage, des gens qui sont placés sous sa juridiction. Les juristes comprendront. Quand vous êtes sur le territoire d'un État, vous dépendez de cet État-là qui dirige votre agissement, que reconnaît une série de droits que vous avez et libertés, mais peut aussi vous demander autre chose. Et la nouveauté de la Convention est justement celle-là. On s'intéresse et on protège non pas seulement ses propres citoyens, ce qui est normal, classique en droit international, mais je protège la veuve et l'orphelin, je protège l'étranger, je protège l'immigré illégal, je protège le type de passage. Je n'ai pas le droit de le massacrer, de le torturer, de le violer, de le mettre en prison sans raison. La Convention protège, oblige les États à protéger toute personne qui relève de sa juridiction, y compris tous les illégaux, tous les clandestins, tous. C'est phénoménal. C'est cette bataille-là qui m'a intéressé, qui m'a attiré sur Strasbourg, où je pensais rester un an ou deux le temps de fourbir un peu mes armes en droit européen, et puis je passais à Bruxelles, parce que quand même, l'objectif de tout jeune étudiant en droit communautaire, je parle des années 70, on était encore au début de tout ça, Eh bien, tout objectif, ambition de jeunes étudiants en droit communautaire, c'est quand même de s'installer à Bruxelles où on fait des choses sérieuses, plus visibles, etc. Je suis resté à Strasbourg toute ma vie professionnelle. Je suis maintenant à la retraite. Ma famille s'est agrandie. J'ai 3 enfants qui sont mariés, qui ont des petits-enfants. Donc, voilà. Mais ce que j'ai pu faire au Conseil de l'Europe, dans cette organisation qui a été, au fond, à l'origine de toutes les autres, me conforte dans cette mission au service de la paix. Je rappellerai un seul fait qui est, au fond, la déclaration Schuman de 1950. C'est-à-dire, dans le laps d'un an, 1949, Conseil de l'Europe, 1950, déclaration Schuman, la conscience s'était manifestée, ou la prise de conscience s'était manifestée, que le dialogue, la discussion entre les États membres, 15 du Conseil de l'Europe de l'époque, et n'oublions que la Grèce en faisait déjà partie, la Turquie en faisait déjà partie, montrait que la discussion, les Scandinaves en faisaient partie, montrait que la discussion était essentielle, mais que l'action concrète faisait défaut. Il y avait des convictions différentes qui s'opposaient, notamment les Britanniques. Dès le début, on dit c'est une excellente chose, mais on ne va pas trop s'engager, on ne va pas perdre notre liberté. Nous avons toujours un empire, nous avons toujours un Commonwealth, nous avons toujours des responsabilités mondiales. Bon, on ne va pas trop se lier les mains ici en Europe. Donc, un an plus tard, vous avez la déclaration Schuman qui dit les menaces qui pèsent sur la paix aujourd'hui exigent un effort créateur à la hauteur des menaces qui pèsent sur la paix. C'est-à-dire, il fallait changer de braquet, il fallait quelque chose de beaucoup plus visionnaire, courageux, audacieux. Et c'est la proposition de fusionner l'industrie du charbon et de l'acier sous l'autorité ni de la France ni de l'Allemagne, mais d'une autorité commune, supranationale. C'est le plan Schuman qui donnera ensuite la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et pourquoi a-t-on fait la CECA? Pourquoi a-t-on fait la Communauté européenne du charbon et de l'acier? Il n'y a pas plus barbant que ça. Mais parce qu'à l'époque, le charbon et l'acier étaient les matières premières de l'industrie de la guerre. On a souvent dit que la guerre a été voulue aidée évidemment par les industriels allemands. Krupp est quand même le premier fournisseur d'armes à l'époque de l'Empire germanique. Et par la suite, l'acier est la matière première avec laquelle on fait les canons, on fait les obus, on fait les chars, etc., etc., etc. Et le charbon, c'est l'énergie. Alors, dans l'imaginaire de ceux qui avaient connu la première guerre, et surtout la deuxième, pour empêcher la guerre, il faut empêcher quelqu'un de garder, contrôler le charbon et l'acier. Ils sont où, le charbon et l'acier? Dans le nord de la France et dans la Ruhr. Donc, il faut fusionner cet espace économique, il faut le placer sous une autorité indépendante. On renonce à une marge d'autonomie. On perd en souveraineté si on accepte que dorénavant, la gestion de ce pan si important de l'économie dépende d'une autorité autre que le gouvernement de son propre pays. C'était un sacrifice important qui a été demandé à la France et à l'Allemagne. Il a été accepté. Cette communauté a vu le jour. Elle existe, elle a généré 2 autres communautés économiques européennes. De l'énergie atomique, l'Euratom, dont on ne parle plus. Voilà. Et à partir de là, c'est le mouvement que nous connaissons aujourd'hui avec l'Union européenne, qui est passée de 6 à 27, 28 plus 27, etc. Donc c'est un mouvement qui a été lancé à partir de cette intuition d'origine 1949. Et je suis resté à Strasbourg, je ne suis pas allé à Bruxelles, je suis resté à Strasbourg parce que j'ai pu m'occuper de certains et de plusieurs volets de notre travail qui couvre énormément de domaines, tous en fait. Je me suis occupé de questions sociales, je me suis occupé de droits sociaux, politique familiale, culture, protection du patrimoine artistique, les monuments historiques, les églises, les cathédrales. J'ai même dirigé une école de formation des artisans dans la restauration, la rénovation des bâtiments historiques. Voilà, à Venise. c'était pas un mauvais choix. Plutôt, vivre à Venise, c'est un peu éprouvant par moments. L'Acqua Alta, vous connaissez. Mais sinon, c'est une belle expérience. Mais je suis aussi passé par là. C'est pourquoi, chaque fois que j'entre dans une cathédrale, je regarde les stucs, les colonnes, le mortier, parce que je connais les techniques que les autres appliquent. Mais ayant enseigné, ayant dirigé l'école, je sais ce qu'on a enseigné et j'ai fait attention à cela. Et puis j'ai travaillé dans le domaine, étant juriste de formation, j'ai travaillé dans le domaine de la décentralisation, c'est-à-dire des niveaux de gouvernement à l'intérieur d'un État. L'État, les régions, là où elles existent, les départements, les provinces, les communes, etc. etc. Et j'ai fait cela pendant plusieurs années au profit des nouveaux États membres du Conseil de l'Europe, ceux qui sont arrivés après 1990-92, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, après la fin de cette séparation entre les deux Europes, que le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, avait vivement souhaité et demandé lorsque, en 1988, il a visité Strasbourg et lors de son dernier discours, il a souhaité, c'était prophétique quand même, que l'Europe puisse bientôt respirer de ses deux poumons. En 1988, le mur de Berlin existait toujours, le rideau de fer séparait encore les deux moitiés de l'Europe. Un an plus tard, c'était virtuellement terminé. À partir de 1992-1993, tous ces États-là, libérés du joug communiste, y compris les États devenus ou redevenus indépendants après la dissolution de l'Union soviétique 31 décembre 1924, décembre, puis effective 31 décembre 1991, ont demandé à devenir membres du Conseil de l'Europe. Tous, sauf la Biélorussie. Je referme la parenthèse. Et moi, j'ai travaillé avec d'autres, évidemment, pas tout seul, pour aider ces pays, notamment, à progresser sur la voie de la démocratie, d'institutions démocratiques. Il fallait tout réécrire. Toutes les constitutions ont dû être réécrites. Des lois ont dû être écrites. Il n'y avait pas de loi sur le parti politique. Il n'y avait pas de loi sur l'indépendance de la magistrature. Il n'y avait pas de loi sur les collectivités locales, les communes. Il n'y avait pas de loi sur les finances, etc., etc. Mon secteur d'activité était justement la participation citoyenne. Et j'ai travaillé dans certains pays, un en particulier, l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle, quand cette guerre a été déclenchée l'an dernier, je me suis senti personnellement touché, en quelque sorte. J'ai toujours des amis ukrainiens, dans les ministères, dans les associations, dans les communes, avec qui nous avons travaillé pendant des années. C'est un pays que j'ai visité à plusieurs reprises, mais et d'autres aussi. Donc j'étais au cœur, si vous voulez, de certaines réformes essentielles, si on veut transformer en sens démocratique un État, en élargissant la possibilité des citoyens de participer à la prise des décisions qui les concernent. Les élections, bien sûr, mais toutes sortes de consultations additionnelles, les associations participent. Voilà. Et cela m'a montré, dans des situations de difficulté et de crise que ces pays-là ont connues, je pense à la Moldavie ou Moldova, avec la Transnistrie séparatiste occupée, je pense à la Géorgie occupée, l'Ukraine elle-même, à partir de 2014, voilà, l'occupation, la pseudo-indépendance des parties orientales et l'annexion de la Crimée, cela a montré à quel point la paix est fragile dans nos propres États membres, que nous croyons mise à l'abri de la guerre, de la violence, parce que membres du Conseil de l'Europe qui protègent les droits des individus, qui obligent les États à faire attention les uns aux autres par rapport au dérapage possible de la démocratie, par rapport au dérapage possible dans les fonctionnements des institutions. Et voilà. Et il nous a semblé que certains avaient trahi la promesse, n'avaient pas tenu la promesse qu'ils avaient faite, la Russie pour commencer. Mais d'autres étaient aussi restés peut-être trop silencieux, passifs, accommodants. Mais bon, c'est comme ça. L'histoire, les traditions, la force font que on n'a pas le choix, on accepte. Et puis on espère toujours, ça va évoluer. Ça va. Et donc, pour moi, dans le peu de choses que j'ai pu faire, via le Conseil de l'Europe, dans tous ces pays-là, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, l'Arménie en particulier, qui est aussi aujourd'hui victime d'un conflit qui l'a privé enfin, qui a forcé une partie importante de sa population à déloger du Karabakh et à être rapatrié en Arménie. L'Arménie, la Géorgie, la Moldova, l'Ukraine surtout, et même la Russie, où j'ai travaillé sans grand succès, vu ce que ça a donné. Mais ça m'a donné une motivation forte pour agir pour la paix, en ayant souvent comme fil conducteur ou comme étoile du berger le droit. Face à la violence, on peut répondre avec une autre violence, c'est sûr. On dira qu'elle est légitime, on dira qu'elle est nécessaire, on dira qu'elle est inévitable, on dira, ou on se forcera parfois de dire, qu'elle est proportionnée. Mais c'est la force, c'est la violence, et il y aura des victimes. Par contre, le droit, en soi, ne fait pas de victimes. Rétablit la justice. Et je crois profondément que dans le monde d'aujourd'hui, le droit international, public ou pénal, il y a des tribunaux internationaux, le droit soi-disant humanitaire, mais en fait, il n'y a pas du droit humanitaire, il n'y a que du droit international qui s'impose aux États, parce que c'est un droit qui vise à l'égalité des chances et qui vise au progrès de l'humanité. Bien, ce droit-là doit être remis, comme l'Église au centre du village, doit être remis au cœur de l'action des institutions internationales. Il me semble que c'est à partir de cette lecture-là qui me motive dans ce que je fais que nous pouvons analyser un peu la réalité du monde et nous interroger sur le maintien ou le rétablissement de la paix. Nous avons des conflits en cours en Europe et dans le monde. Mes convictions personnelles d'européiste, démocrate, l'idéal de fraternité que j'essaye de porter tous les jours et que j'essaye d'insuffler dans le mouvement qui n'en a pas besoin parce qu'il est né avant moi avec les mêmes convictions qui sont les miennes, c'est que ces guerres-là, effectivement, nous interpellent au plus profond de nous-mêmes. En quoi avons-nous failli à notre mission? En quoi n'avons-nous pas été capables de changer les cœurs, d'amener les dirigeants politiques qui l'affirment à se conduire de façon fraternelle, égalitaire, pacifique et tolérante vis-à-vis des autres, en quoi n'avons-nous pas réussi à faire de cet idéal une réalité concrète qui peut souffrir, ici et là, bien sûr, de violations, d'entorses, mais qui revient en force. Je crois, on le verra tout à l'heure avec les propositions les idées que vous donnera Bérangère, que l'éducation à la paix, qui était l'un des combats principaux de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la culture, la science et l'éducation, qui a été un peu délaissé à l'UNESCO, que nous avons repris modestement. Voilà. L'éducation à la paix est l'une des clés de voûte pour changer le monde, en quelque sorte. En commençant par nos familles, nos églises, nos paroisses, nos associations. Et puis, il y a effectivement la justice. Nous sommes dans les 60e anniversaire de l'encyclique Pacem in Terris, dont on a parlé peut-être pas trop, c'est 60 ans. Mais bon, les dates servent justement tous les 10 ans, tous les 25 ans, à se dire ben, il y a eu telle ou telle chose. Dans le métro ce matin, je voyais des grandes affiches qui disent « visitez ceci ou cela ben, ». C'est les 400 ans, 4 siècles de Versailles. 1723-2023. Ah bon? Bon, 4 siècles, c'est bon. Bon. Moi, j'ai dit 60 ans, c'est bon. Pour s'interroger, si cette encyclique, je regarde toujours vers le fond de la chapelle, il y a 60 ans, vous étiez jeune, adolescent comme moi, mais je me souviens du retentissement énorme de cette encyclique du pape Jean XXIII. Énorme de par son contenu, et aussi parce que le pape mourait 3 mois plus tard. Il a publié l'encyclique en avril, il est mort en juin. Et donc, par ricochet, on se penchait sur ce texte en se disant « il a fait ça avant de mourir ». Et que dit l'encyclique « Pacem in Terris » ? Elle commence par un catalogue de droits fondamentaux. Elle rappelle que la paix ne peut être obtenue que si l'on respecte les droits humains de chacun. Voilà. Et c'était un grand changement, parce que l'Église avait été jusque-là assez prudente sur la question des droits de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était une notion laïque, voilà, pour faire simple. Les droits de l'homme, les droits de l'homme viennent de Dieu. Si on ne dit pas ça, on est déjà un peu suspect. Alors, cette prudence, en quelque sorte, a été surmontée par les affirmations du pape, qui n'oublie pas de dire, à la fin de l'encyclique, que la paix ne peut pas s'obtenir, en respectant le droit, bien entendu, sans un engagement pour la justice, pour la liberté, et pour la vérité, et pour la solidarité. Et ce sont les quatre piliers, au fond, sur lesquels repose non seulement l'ordre international, mais l'ordre tout court. Et dans les conflits qui font rage aujourd'hui en Europe et dans la Méditerranée, je crois que les combats de la vérité et le combat de la justice sont les plus importants. Il y a un passage de la Bible, je ne la lis pas en hébreu ou en grec, mais « Justitia et pax osculate sunt ». La justice et la paix se sont embrassées. Ce sont les deux figures, je dirais, pivot central de la paix et de la réconciliation. Il faut rétablir la vérité par rapport à des faits qui sont occultés. Je donne un seul exemple. La prétention absurde, ignoble, de M. Poutine, de dire, premièrement, l'Ukraine n'existe pas. Elle a toujours fait partie de la Russie. C'est une question un peu extravagante que de prétendre. Bon, et raconte l'histoire à sa manière pour dire que ce fut une erreur phénoménale de Lénine, etc., etc. Donc, déjà, l'Ukraine n'existe pas. Et deuxièmement, l'Ukraine est nazie. Il faut la dénazifier. Ma guerre est une guerre de libération. Je rends un service à l'humanité en dénazifiant l'Ukraine. Le reste, pantois. Mais combien de personnes, par paresse, par complicité, par ignorance, on dit « Ah ben, il n'a pas tort ». Bon. Donc, il faut rétablir la vérité dans les combats. En fait, il ne faut pas laisser passer des choses pareilles. Et nous, à Pax, on s'est engagé, on a essayé de se prononcer là-dessus. Et puis, il y a le combat de la justice. Il y a le combat de la justice. On ne peut pas entretenir la paix si on ne regarde pas ce qui a été promis, ce qui a été fait. C'est à quoi on s'est engagé, et si on a tenu ses engagements et ses promesses. Voilà. Il y a des droits, il y a les droits des peuples à vivre en paix, dans des frontières reconnues internationalement, et à se comporter, finalement, en frères de cette fraternité. Les Nations Unies sont nées, la Société des Nations avant elle, sous l'étiquette de la famille humaine, de la famille des nations. On disait en anglais « the league », en français « la société », et on traduisait souvent en « famille ». Des nations. En Italie, on parlait de communauté, l'organisation, la communauté. Voilà. Donc, c'est une notion, la justice, il faut remettre la justice au cœur de nos relations internationales. Et je crois que la tragédie que vivent en ce moment le peuple israélien et le peuple palestinien est une tragédie qui trouve sans doute ses origines dans un manque, dans une justice qui n'a pas été suffisamment rendue à ces deux peuples. Donc, par rapport à tout cela, je porte un engagement personnel. J'essaye d'entraîner le mouvement, ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui disparaissent, qui reviennent, etc., pour montrer que la paix est toujours possible. Il faut l'oser. Il faut oser parler, il faut oser agir dès et pour la paix. Surtout, hélas, au moment où elle semble s'éloigner de notre horizon. Où est-elle, la paix ? On pourrait dire, dans nos quartiers, dans nos sociétés, dans l'Église, avec ce qu'on entend, et puis dans les relations internationales, le non-respect du droit, les agressions, la violence, les guerres, etc. Où est-elle, la paix ? Alors, oser la paix, il faut savoir la réclamer. Il faut savoir prier pour elle. Il faut savoir aussi prendre des initiatives courageuses pour débloquer une situation, pour rétablir la paix. La justice et la primauté du droit, en quelque sorte. Voilà. Et j'espère que des propositions courageuses seront faites par celles et ceux qui ont des responsabilités au plus haut niveau dans la communauté internationale. C'est un sujet extrêmement important. La société internationale, la communauté internationale est plus fracturée que jamais. Nous avons connu 60 ans d'évolution de relations internationales, dans un premier temps autour des deux pôles idéologiques qu'étaient, disons, l'Amérique démocratique, libérale, l'Occident. et le pôle idéologique du communisme de l'Union soviétique. C'est une vision alternative de la société, qui promettait d'ailleurs d'être bien plus joyeuse, bien plus correcte, bien plus juste que la société occidentale, capitaliste et libérale. On voit ce qu'il est advenu de ce rêve, un rêve mortifère, parce que les premières victimes de ce rêve étaient ceux qui l'ont proposé, les Russes eux-mêmes, au fond, l'Union soviétique, et les peuples qui y ont cru, le pays en développement. Cette polarisation-là a volé en éclats à la fin des années 90, avec la dissolution de l'Union soviétique et, comment dirais-je, la mer de cendres que le communisme a laissée en Europe et dans le reste du monde. La perte, la fin d'une illusion, si vous voulez, d'un idéal. Moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé dans les sociétés de l'Est, voir l'indifférence, le cynisme, l'hostilité réciproque des gens qui, malgré tout ce que la propagande donnait à croire sur le fait qu'on ait une société d'égaux, etc., se détestaient, s'ignoraient, créaient, généraient une rivalité réciproque. Créer ces liens-là au lendemain. Aujourd'hui, la société internationale, qui n'a plus qu'un seul pôle, est polarisée. Bon, les BRICS, vous en avez entendu parler. Regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez le Brésil, l'Afrique du Sud. Qui gouverne le monde aujourd'hui ? On ne sait pas. Dans les faits récents, on voit bien qu'un pays comme les États-Unis ont de plus en plus de mal à coaliser autour d'eux ou autour d'une cause qu'ils portent une large fraction de l'humanité. Donc, ces fractures-là, pour l'instant, sont réelles. Une recomposition autour d'un autre monde de valeurs ou système de valeurs n'est pas encore en vue, mais il faut œuvrer pour que cette recomposition se fasse autour des valeurs de humanisme, fraternité, justice et vérité. C'est ce que nous essayons de porter en tant que mouvement, avec nos réflexions, nos marches, nos rassemblements, les textes que nous publions, les manifestes que nous signons, comme nous l'avons fait, par rapport à la guerre d'Ukraine, par rapport au drame qui se vit en ce jour-ci à Gaza, en Israël et en Palestine. Et nous essayons de porter ce message qui est un message de confiance qui s'est traduit dans la mesure du possible par des actions concrètes que nous proposons et dont Bérangère en particulier va vous parler dans un instant. Voilà. C'est un combat que nous portons chacun avec d'autres moyens. C'est un combat que nous portons avec une conviction forte que c'est ainsi que nous sommes fidèles au mandement que nous recevons, en général une fois par semaine, aller dans la paix du Christ.
Oser la paix en temps de guerre, vous venez d'entendre l'intervention d'Alfonso Zardi, délégué général de Pax Christi France, une intervention enregistrée le 22 novembre 2023 à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.